matin,
la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France bouge et vous êtes au bon endroit pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission, leur devise, c'est la science pour la santé. Ils sont 15 000 chercheurs, ingénieurs, techniciens et personnel administratif avec un objectif commun, améliorer la santé de tous par le progrès, par l'innovation dans les traitements et la recherche en santé publique, le président de l'INSERM, Gilles Bloch, est l'invité de La France bouge. À la une, comment améliorer le diagnostic et les traitements de certaines maladies? On a trouvé une start-up, elle s'appelle Ivenzis, qui va nous présenter sa solution pour la DMLA, vous savez, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On la découvre d'ici quelques minutes. Ensuite, direction l'Hôtel Dieu, le plus vieil hôpital de France. Il est situé à Paris, sur le parvis de Notre-Dame. Rendez-vous à 13h30 pour le récit de Charlotte Barrican. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui on reçoit Polygon Therapeutics. C'est une entreprise qui vise à traiter les conséquences à long terme de l'infarctus du myocarde.
Rendez-vous à 13h45. Et puis en fin d'émission, demain je change de vie. Samuel Deluz travaillait dans le cinéma comme toute sa famille. Aujourd'hui il est directeur adjoint du CHU de Caen. Eh bien oui, c'est ça, la France bouge. Bienvenue, vous pouvez nous suivre sur europe1.fr. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici, à La France bouge. Et aujourd'hui, comment la recherche française est-elle une recherche de pointe? Quelle est la stratégie pour attirer, pour garder nos chercheurs? On va en parler jusqu'à 14h avec un acteur majeur en France. Bonjour Gilles Bloch.
Bonjour.
Bienvenue dans La France bouge. Vous êtes le PDG de l'INSERM. L'INSERM, on peut le dire, vous êtes présent partout en France. Vous êtes aussi, vous avez des entités aussi à l'étranger. Plus de 15 000 personnes, 300 laboratoires de recherche. Ça existe depuis 1964. L'INSERM, c'est un organisme public. Et votre devise, donc, c'est la science pour la santé. Vous cherchez à améliorer la santé des citoyens grâce et par la recherche. Alors justement, Gilles Bloch, l'INSERM fait énormément de recherches. Comment ça va en ce moment?
Écoutez, ça va très bien. On a un dynamisme tout à fait vivant dans nos laboratoires. On est irrigué par de nombreux partenaires. On ne travaille pas tout seul, on travaille avec des universités, avec d'autres organismes, avec les hôpitaux. Et l'État nous fait confiance, nous a redonné des moyens dans le cadre de la loi de programmation de la recherche. Donc vraiment...
Quand vous dites que ça va bien, je vous vois sourire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'INSERM, on en a beaucoup parlé ces deux dernières années, en plein une crise sanitaire. On a traversé une crise inédite avec la crise du Covid. Comment l'INSERM a contribué à cette crise sanitaire?
Alors, l'INSERM, sa première mission, c'est de produire de la connaissance nouvelle. Donc on a contribué en travaillant sur la compréhension de la physiopathologie de cette nouvelle maladie qui était la Covid-19, en lançant des grandes études sur l'épidémiologie de cette maladie, en étudiant comment la population évoluait dans ses sérologies, comment elle s'immunisait avec des anticorps. On a travaillé sur des solutions thérapeutiques, on a travaillé sur les vaccins.
Ça veut dire que dès que ça a démarré, on se replonge en février 2020, vous avez... Vous êtes tous mobilisés, vous êtes dit on va travailler. Alors, là-dessus, comment que vous êtes organisés?
On avait la chance d'avoir une équipe qui avait appris depuis pas mal d'années sur d'autres épidémies émergentes, mais de moins grande ampleur. Vous vous souvenez sûrement du Zika, de l'Ebola, qui avait moins touché la France au niveau de l'Hexagone. Et donc, on avait l'habitude de lancer à chaud des recherches en réponse à ces épidémies.
Vous êtes réactifs, tout de
suite. Voilà. Et là, on a pu très vite, dès le mois de février, lancer plusieurs dizaines de projets. L'État a pris le relais avec des financements importants.
L'État vous a aidé?
Ah ben, bien sûr. De toute façon,
pour toutes ces recherches...
L'INSERM est un établissement public. On est financé à peu près à 2/3 par l'État, 1/3 par des recettes qu'on va chercher, et d'ailleurs beaucoup de recettes publiques, mais aussi par des partenariats industriels.
La pandémie de Covid-19 a montré combien l'investissement dans la recherche était crucial pour trouver des remèdes à cette crise. Est-ce que vous en avez trouvé? Est-ce que vous avez assez de chercheurs pour les trouver, ces remèdes?
Alors, on a participé à un certain nombre d'avancées. Par exemple, la bonne utilisation des corticoïdes dans le traitement aigu de la Covid, eh ben on a participé
à... Oui, vous dites bonne utilisation, parce que je me souviens au tout début, on nous disait surtout pas de corticoïdes, ça peut exagérer les symptômes.
Exactement. Et puis, on a participé à des études de repositionnement de molécules, puisqu'au début, il n'y avait pas eu le temps de développer des molécules spécifiques, donc on a repositionné des molécules qui existaient, on a éliminé des mauvaises pistes, et puis on est en train de travailler encore sur un certain nombre d'anticorps qui se sont montrés efficaces.
Quelles conséquences, qu'est-ce que vous en avez tiré de cette crise, hein? Quand on est un organisme public de chercheurs et qu'on a affaire à la plus grande crise sanitaire, hein, jamais connue en tout cas de notre vivant, qu'est-ce que vous en avez tiré dans votre organisation, dans les recherches, dans les résultats?
Je dirais deux leçons. Bon, la première, c'est qu'on peut repousser les barrières, on peut accélérer énormément. Là, en quelques mois, on a réussi à mettre en place des études, à les démarrer, à inclure des volontaires ou à inclure
donc
des patients.
Donc vous avez pu vous prouver à vous-même que vous étiez très rapide, très réactif.
On a pu prouver que le facteur temps pouvait être considérablement réduit. Mmh. Et puis, on a appris, alors parfois un peu à nos dépens, l'importance d'une coordination plus efficace de la recherche, en particulier en période de crise. Et c'est comme ça qu'on a pu créer une nouvelle agence de financement au sein de l'INSERM dédiée aux maladies infectieuses émergentes, qui est donc intitulée ANRS Maladies infectieuses émergentes. Il y avait un historique avec l'ANRS, qui est vraiment le bras armé de cette recherche sur la Covid-19 et maintenant sur l'ensemble des maladies émergentes. Pour les années qui viennent.
Donc davantage de collaboration, davantage de communication.
Hein, de l'animation et des moyens supplémentaires, là aussi que l'État a mis à notre disposition, pour pouvoir accélérer le temps, accélérer la recherche dans ces domaines.
Pour faciliter la prise en charge des patients et faire justement avancer la recherche médicale, l'Europe voudrait créer un espace européen des données de santé. Vous en pensez quoi, Gilles Bloch, parce que justement, ça va dans le sens de ce que vous venez de nous dire, hein, se rassembler.
Partager les données de santé, c'est très important parce qu'on sait qu'il y a des gisements de connaissances de l'exploitation, que ce soit
c'est une mine d'or, en
des
vrai.
Données hospitalières, des données dans les systèmes d'information sur le remboursement, ce qu'on appelle le SNDS dans notre pays. Tout ça, c'est une nouvelle façon de faire de la science dans le domaine de la santé. Ça se heurte quand même à des questions de protection des personnes, des questions de confidentialité. Et donc, il faut trouver le juste équilibre entre libéraliser au maximum l'accès à ces données pour des équipes de chercheurs et garder quand même bonne mesure pour protéger les individus.
Vous restez avec nous, Gilles Bloch. Vous êtes le PDG de l'INSERM. Aujourd'hui, c'est une France Bouge consacrée à la science, consacrée à nos chercheurs. Et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, les pépites françaises. Et aujourd'hui, on a envie de mettre à l'honneur nos chercheurs. Et nous sommes ravis d'être avec vous, Gilles Bloch. Vous êtes le PDG de l'INSERM. Alors, certaines maladies actuellement n'ont pas de traitement, notamment les maladies chroniques. Tiens, justement, Gilles Bloch, vous jouez un rôle aussi, l'INSERM, dans la recherche des traitements?
Bien sûr, on a énormément d'investissements sur ce qu'on appelle la thérapeutique, la recherche thérapeutique, avec plusieurs dizaines de solutions thérapeutiques qui sont en cours de tests cliniques, donc dans la dernière phase de développement des médicaments. Et donc, c'est une des activités majeures de recherche de l'INSERM, à côté des recherches sur le diagnostic, parce qu'il faut aussi diagnostiquer.
Donc vous avez une partie diagnostic, une partie thérapeutique avec les traitements, prévention, voilà, et une partie études, parce que moi, le nombre d'études que je lis selon une étude de l'INSERM, il y en a énormément aussi.
Oui, études, ça veut dire mettre à disposition du public nos résultats.
Et après, on la retrouve dans Nature ou The Lancet. Et là, on dit
c'est les publications scientifiques.
Publications, oui, mais c'est important.
Voilà. Et on en publie des milliers chaque année. L'INSERM est le plus gros producteur national et même européen de
contenu scientifique aussi. On va prendre l'exemple de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est une maladie chronique, si je ne dis pas de bêtises, de la zone centrale de la rétine, qui est appelée donc le ou la macula. La macula. Et elle apparaît après 50 ans, elle évolue progressivement et il n'existe pas actuellement de traitement. Alors nous, on a trouvé une start-up qui travaille avec l'Inserm et qui est sur le point de sortir une plateforme pour améliorer le traitement et le diagnostic. Bonjour Francine Béard-Cohen.
Bonjour.
Bienvenue dans la France Bouge. Vous êtes donc la fondatrice de I26. Ça s'écrit E-Y-E-V-E-N-S-Y-S. Alors c'est quoi ? C'est une start-up qui va nous permettre d'affiner le traitement pour cette maladie chronique liée aux yeux.
Voilà, I26 c'est une start-up qui est donc issue d'un laboratoire INSERM. Donc la recherche a été faite dans un laboratoire de l'INSERM. Et puis quand on arrive à un stade suffisamment mûr du développement du projet, on peut créer une start-up qui va ensuite permettre le développement pour aller jusqu'aux phases cliniques du traitement. I26, c'est une plateforme qui permet d'apporter plusieurs types de traitements, des protéines thérapeutiques pour le traitement de plusieurs maladies oculaires. Et là, on parle de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une maladie pour laquelle il y a des traitements, comme les anti-VEGF. Donc, on injecte dans l'œil tous les mois des médicaments. Mais il y a toujours plusieurs problèmes qui sont non résolus. Le premier, c'est celui de la nécessité de réinjecter à l'intérieur de l'œil en continu pendant des années, et qui fait que c'est assez difficile au niveau de la compliance des traitements. Les patients...
C'est lourd, en fait.
C'est très, très lourd. Et donc,
c'est pas juste des simples petites gouttes qu'on met dans l'œil.
Non, c'est vraiment injecté à l'intérieur de l'œil. Ceux qui le subissent savent à quel point c'est difficile, et surtout quand ça devient chronique.
C'est douloureux.
Donc, ça peut être douloureux, oui. Donc, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est faire un traitement qui va durer plus longtemps. Et l'autre innovation, c'est qu'on apporte des solutions pour les aspects qui sont non résolus, qui sont que malgré ces traitements, les patients continuent à perdre la vision. Et donc, on apporte des nouveaux traitements pour éviter cette perte de vision sur le long terme.
Mais c'est extraordinaire ce que vous nous dites. Vous êtes en train de révolutionner.
Oui,
vous êtes en train de révolutionner tous les traitements qui sont liés à ce type de maladie. Donc, vous venez nous le dire, ce sont des traitements lourds à la base qui existent. Et vous êtes en train de les alléger avec des solutions différentes. Ça y est, c'est mis en place ou on est en phase de test là, en ce moment ?
Alors, on a testé sur des patients. Donc, le développement d'un médicament, ça nécessite plusieurs phases. Il y a des phases d'abord de sécurité sur les patients. Ensuite, on a des phases tests sur des nombres restreints de patients. Et puis, on a de très grandes études de validation qui permettent ensuite que ces médicaments soient reconnus par les autorités réglementaires pour être approuvés et puis remboursés, etc. Donc, nous, on est aux phases, on a fait les phases 1 et 2, c'est-à-dire qu'on a démontré que c'était faisable sur des patients. On a amélioré le système, ça nous a apporté des informations pour améliorer le système. On a des résultats sur un petit nombre de patients avec des résultats qui sont très encourageants. Puis maintenant, il faut faire les grandes études. Et c'est là qu'on a besoin de beaucoup plus de financement. Et on est en recherche de ces financements pour pouvoir passer à la phase d'accélérer un peu le développement.
Pour pouvoir accélérer. Parce que s'il n'y a pas ces financements, ça peut ne pas aller au bout.
Tout à fait, oui.
C'est absolument incroyable. Parce que
vous êtes... La vie des startups. On passe plus de temps à chercher de l'argent,
mais là, on est quand même sur des traitements médicaux qui peuvent améliorer la qualité de vie et améliorer la santé des gens. Gilles Bloch, vous en pensez quoi ? Vous êtes le PDG de l'Inserm.
C'est le modèle de développement, je dirais, quasiment universel des médicaments. C'est qu'à un moment, la sphère publique n'a plus les moyens de porter le développement des médicaments. Ça doit être pris par des investisseurs privés. Ça coûte des dizaines, voire des centaines de millions d'euros pour une étude. Et ce sont des paris, parce que malheureusement, parfois, même jusqu'aux études de phase 3, peut y avoir des échecs. Parfois, en phase 4, on découvre des effets secondaires rares dans la population et il y a des médicaments qui sont retirés. Donc, c'est un pari et c'est des paris qui sont pris par des investisseurs, par des grandes sociétés, qui accompagnent les startups dans leur croissance.
Francine Béard-Cohen, vous êtes en train donc de rechercher à lever des fonds là, en ce moment.
Oui, une startup, ça cherche toujours.
Oui, bien sûr, ça on le voit chaque jour, la France bouge. Mais quand il y a le domaine médical, on peut se dire, c'est peut-être contre-intuitif, mais on se dit, ça va être plus simple parce que vous allez sauver la vie des gens, donc c'est peut-être plus facile de lever des fonds.
Il y a beaucoup de risques en fait, comme a dit le directeur général. Le problème, c'est le risque. Et en France, c'est vrai que voilà, il faut prendre ces risques. On est bien sûr amené à aller chercher des fonds aussi à l'étranger.
Alors justement, vous avez commencé une nouvelle phase clinique de vos essais aussi aux États-Unis.
Oui, tout à fait. Oui.
Ouais, donc tout ne se passe pas en France.
Non, tout ne se passe pas en France.
Pourquoi ?
C'est nécessaire parce que les marchés sont importants aussi ailleurs et que les investisseurs, quand ils mettent des sommes importantes, veulent pouvoir couvrir des marchés plus larges.
J-Block, des startups comme ça, comme Ivensys, il y en a beaucoup qui émergent comme ça de l'INSERM.
Alors, des très belles success stories comme Ivensys, on en a quelques-unes. Et,
vous avez distingué
Francine du prix de l'innovation de l'INSERM qui a été créé l'an dernier parce que c'est un succès tout à fait remarquable. Mais en moyenne, on crée une bonne dizaine de start-up par an à l'INSERM.
C'est-à-dire que quand vous dites que vous les créez, on part de la recherche, on se dit il y a quelque chose.
Exactement.
Et pour pouvoir financer, voilà, on va le transformer en start-up.
Exactement. Et on essaye de partir de l'idée qui est toujours portée par une chercheuse ou un chercheur. On crée une équipe entrepreneuriale parce que très souvent, ce n'est pas le chercheur médecin ou biologiste qui est capable de manager une équipe.
Mais oui, c'est un autre métier.
Donc,
hein.
on crée des contacts entre nos scientifiques et des gens dont c'est le métier d'entreprendre. Hein, et notre filiale INSERM Transfer a appris à faire ça depuis pas mal d'années, avec de la formation de nos chercheurs, à travailler justement en équipe, avec de l'identification de viviers de managers qui peuvent nous accompagner. Et donc, ça aboutit à, je l'ai dit, une bonne dizaine de créations d'entreprises. On pourrait faire encore plus parce qu'il y a du potentiel, mais ça demande d'aller chercher d'autres investisseurs. Et on a quelques très belles réussites.
Comme Ivensys. Vous êtes actionnaire, par exemple, de Ivensys.
Alors, on n'est pas toujours actionnaire de nos startups.
Mais celle-ci, oui.
Celle-ci, oui. Mmh.
Et puis, vous les aidez, par exemple, pour déposer des brevets.
Alors,
là, l'INSERM joue son rôle.
Ben, INSERM Transfer, donc notre filiale de valorisation, dépose 250 à 300 brevets par an, ce qui est considérable. Hein. On est le plus gros déposant de brevets national dans le domaine biomédical et dans le top 3 au niveau européen.
Le CEA est pas mal aussi. Hein.
Oui, mais dans d'autres secteurs, dans le domaine médical, on est vraiment l'acteur central. Et donc, INSERM Transfer a internalisé à 80% cette fonction de dépôt de brevets.
Ce que vous nous dites, c'est que l'INSERM, ce n'est pas ce laboratoire de recherche poussiéreux dont on peut avoir une image. Pas du tout. Hein.
Je pense qu'on a été,
vous avez été
peut-être poussiéreux il y a très longtemps, mais ça fait quelques dizaines d'années qu'on est dépoussiéreux.
Ouais, et vous nous le dites très bien, Gilles Bloch. Francine Béard-Cohen, votre ambition, c'est quoi avec Ivensys? Là, vous êtes dans les phases de test, on voit que c'est compliqué, il faut lever des fonds. C'est quoi? C'est d'être acheté par un grand groupe?
Non, peut-être, mais enfin, c'est surtout d'avoir des partenariats avec des grands groupes. Aujourd'hui, quand on est à ce stade du développement, il faut absolument des partenariats avec des grands groupes pharmaceutiques qui ont aussi les capacités, qui n'amènent pas que de l'argent, qui amènent des capacités donc pour les études cliniques et puis ensuite peut-être pour la commercialisation.
Mmh. Et vous êtes en train de discuter là avec certains?
C'est sans cesse, oui, bien
sans
sûr.
Sans cesse. Et bon, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Merci à vous, Francine Béard-Cohen, d'être venue aujourd'hui
Merci
dans la France Bouge. Vous êtes la fondatrice de Ivensys. Vous restez avec nous, Gilles Bloch.
Europe 1, la France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et on voit chaque jour sur Europe 1 entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Aujourd'hui, on met en avant nos chercheurs, on met en avant la recherche française et nous sommes ravis d'être avec vous, Gilles Bloch. Vous êtes le PDG de l'INSERM. Hein. L'INSERM, la devise de l'INSERM, c'est la science pour la santé. Alors, vous nous avez dit au début de l'émission que vous avez accompagné la recherche pendant la crise sanitaire, mais tout de même, pas de vaccin français. C'est quand même un échec. Comment vous analysez cela, Gilles Bloch?
Alors, c'est quelque part un échec, il faut être sincère, mais pas un échec de la recherche publique. Parce qu'au début de la crise, nous, on a fait le travail, comme dans d'autres domaines, je l'ai évoqué, le domaine thérapeutique, le domaine de la prévention, on a fait le travail de cartographier nos pistes de vaccins. Il y avait en France une trentaine de candidats vaccins sur lesquels on était capable de travailler. À l'INSERM, on en avait à peu près la moitié, une quinzaine. On en a accéléré certains. L'État nous a accompagnés avec des millions d'euros qu'on a investis en particulier sur 3 projets. Après, quand il s'agit de développer un vaccin, surtout dans le temps extraordinairement court, qui était le temps de la crise, il faut mettre des centaines de millions d'euros. Il faut des industriels qui prennent le relais. Et donc, en France, on a un industriel qui s'est positionné activement, qui était Sanofi.
Mais
bon, qui a annoncé en toute sincérité qu'ils avaient eu quand même des problèmes dans le développement de ce vaccin. Voilà, donc le résultat, c'est que...
Donc vous dites que c'est à cause de l'argent?
C'est en partie à cause de stratégies industrielles mais là je ne vais pas rentrer dans l'analyse, en partie à cause du fait qu'on n'avait pas de mécanisme en France pour financer massivement une recherche en période de crise sur le vaccin.
Mais quand, vous, par exemple, vous avez appris que c'était Sanofi qui se positionnait sur la mise en place du vaccin, vous dites quoi du côté de l'Inserm? Vous dites, mais on a 34 autres candidats
nous, on
vaccins
dit, on a des candidats, venez travailler avec nous. Après, un industriel, il fait ses choix. Donc, Sanofi a, par exemple, beaucoup travaillé avec d'autres partenaires que l'Inserm. Ça n'a pas abouti. Il faut se rappeler quand même...
Il n'a pas travaillé avec vous?
Pas directement avec nous sur les pistes qu'on avait. Voilà. Après, il faut se rappeler que ce qui s'est passé sur les premiers vaccins à ARN messager qui sont sortis, c'est quasiment miraculeux. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu ça dans l'histoire. Il y a eu, je pense, un enchaînement de circonstances favorables pour les deux acteurs majeurs qui ont mis leur vaccin
sur le
marché.
Parce qu'il faut rappeler que Sanofi ne travaillait pas sur la technique de l'ARN messager. On était sur une technique beaucoup plus classique.
Classique, absolument.
D'injecter voilà. une forme de virus.
Qui a donné d'autres vaccins qui sont sur le marché aujourd'hui. Qui fonctionnent.
Alors, on en tire quoi comme conséquence? Quand on est France, quand on est en pointe sur la recherche médicale, en pointe sur la médecine, nous, on n'a pas trouvé de vaccin. Quelles conséquences en tirer, Gilles Bloch, vous, en tant que PDG de l'Inserm?
Des conséquences sur, là aussi, l'organisation dans notre sphère d'influence, c'est-à-dire qu'il faut mieux se coordonner. Et donc, c'est une des fonctions de l'agence NRS-MIE qui a un bras d'action autour de la recherche vaccinale. Et puis, je crois que sur l'écosystème d'innovation français, je crois qu'on a appris qu'on avait quelques trous dans la raquette, qu'il fallait que l'État français soit capable très vite de positionner des moyens importants sur des filières de médicaments ou des
C'est-à-dire que vous dites qu'au-delà de Sanofi, il aurait fallu mettre de l'argent sur les autres candidats vaccins et pas tout miser sur un seul acteur.
Quand on regarde les pays qui sont arrivés très vite, c'est-à-dire Royaume-Uni, États-Unis, Allemagne, à chaque fois, l'État a mis des centaines de millions, voire des milliards, sur des acteurs industriels bien identifiés, ce qui a considérablement accéléré le temps. En France, on n'avait pas les mécanismes de...
Donc c'est une histoire d'organisation.
C'est une histoire d'apprentissage, d'organisation, et je pense qu'on a tiré pas mal de leçons et qu'on espère qu'on n'aura pas une crise analogue trop vite. Mais il faut se dire aussi que le monde évolue, que le changement global crée des vulnérabilités qui n'existaient pas il y a 20 ou 30 ans. Il faut se préparer à la prochaine crise.
Alors chaque jour dans La France Bouge, Gilles Bloch, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un endroit qui traverse les années, qui sont toujours là en France. Et aujourd'hui, dans cette émission dédiée à la santé, à la recherche médicale française, gros plan sur l'Hôtel Dieu à Paris. C'est le premier hôpital d'Europe, le plus vieil hôpital de France. Il est chargé d'histoire. C'est également le seul hôpital de Paris à avoir une unité médico-judiciaire. Et l'Hôtel Dieu, c'est la saga du jour racontée aujourd'hui par Charlotte Barrican.
Europe 1. La France bouge, la saga.
De l'extérieur, l'Hôtel Dieu à Paris ne ressemble pas à un hôpital. C'est un grand bâtiment de style haussmannien, tout en pierre, avec une cour intérieure immense et verdoyante. Il y a beaucoup de passages, on dirait un campus d'université. Et pourtant, depuis l'an 651, il a une seule et même mission, soigner. Tout commence avec Monseigneur Landry, un évêque parisien. Il crée l'Hôtel Dieu sur l'île de la Cité. Notre-Dame n'existe pas encore, mais ils sont aujourd'hui à quelques mètres. Et en 371 ans, l'Hôtel Dieu est le témoin de l'histoire et a bien failli disparaître à plusieurs reprises, comme nous le raconte Nicolas Castoldi, directeur délégué auprès du directeur général de la PHP.
Ça a été un symbole très longtemps. Il s'est étendu sur l'île de la Cité pendant des siècles et puis un jour il a brûlé. Au XVIIIe siècle, et il y a eu un énorme débat sur le point de savoir s'il fallait le reconstruire ou pas. Et si on le reconstruisait, où fallait-il le reconstruire? La décision a été prise au XIXe siècle de le reconstruire. Il a été reconstruit au même endroit, alors il a changé de côté du parvis de Notre-Dame. Il n'est plus au sud, il est au nord.
L'Hôtel Dieu, c'est 22 000 mètres carrés d'hôpital et pour construire cela, 13 rues parisiennes disparaissent. On doit le bâtiment actuel à deux architectes français, Émile Jacques Gilbert et Arthur Stanislas Diette. Il ne change pas d'emplacement puisqu'il est stratégique en bord de Seine. Et pour une bonne raison, les routes à l'époque ne sont pas toujours sûres. Alors il faut faire venir les malades à la barque si besoin. Très pratique, notamment pendant les guerres mondiales. Et la France n'est pas la seule à en avoir bénéficié.
Il y a eu ici le passage d'un nombre considérable de sommités de la médecine française. Ça a aussi été l'hôpital militaire belge pendant la Première Guerre mondiale. Il y a dans un coin de l'hôpital encore une statue de la reine Astrid. Puis vous voyez autour de vous, vous avez partout dans les galeries des sculptures, des monuments. Cet hôpital-là, il est encore l'origine de tout, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'il a une force symbolique aussi importante. Ça a été le premier hôpital, le plus grand hôpital.
L'Hôtel Dieu, aujourd'hui, est un hôpital un peu différent des autres. On y dort rarement. Seulement 300 lits sont disponibles.
On fait d'abord de la médecine ambulatoire. Il y a de très grandes consultations. Il y a notamment une grande consultation d'accès de soins de santé qui accueille un nombre considérable de réfugiés, d'exilés, qui souvent font la queue en face à la préfecture de police pour avoir leur titre de séjour et puis qui ensuite passent. On a une grande unité médico-judiciaire, on a un grand espace santé jeune. L'Hôtel Dieu, c'est aussi un des grands hôpitaux qui ont été confrontés au drame du VIH. Il y a toujours aujourd'hui une infectiologie extrêmement active, un nombre très important de patients qui sont suivis. Donc c'est un hôpital qui est au cœur de la cité, à tous les sens du terme.
L'Hôtel Dieu est précurseur depuis la première heure et aujourd'hui encore, grâce à ses 600 salariés, il est un haut lieu de la recherche médicale et surtout de l'innovation.
Alors il va y avoir un incubateur, il y a même déjà un incubateur, c'est BioLabs, c'est une belle entreprise née aux États-Unis qui a été fondée là-bas par un Allemand. Ils ont compris qu'on ne fait pas d'innovation en santé, que ce soit en biotechnologie ou que ce soit en santé numérique, si on ne fait pas main dans la main avec à la fois la meilleure recherche et puis avec les meilleurs hôpitaux. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que l'innovation, elle se construise directement avec la recherche et c'est un point important, directement avec l'hôpital. C'est que l'hôpital, c'est là que sont les usagers finaux, c'est les médecins, c'est les soignants, c'est leurs besoins, c'est aussi leurs idées. Et travailler avec l'hôpital, c'est pouvoir en quelque sorte concevoir d'emblée les innovations pour qu'elles collent aux attentes des médecins, des soignants, des patients. C'est faire en sorte qu'en fait l'innovation aille beaucoup plus vite.
L'Hôtel Dieu commence de grands travaux, il s'agrandit de 600 mètres carrés, de quoi accueillir 150 personnes en plus et une cinquantaine de start-up de l'univers de la médecine.
Et c'était la saga du jour sur le premier hôpital d'Europe, hein, l'Hôtel Dieu à Paris. Merci à Charlotte Barrican. Nous sommes toujours avec Gilles Bloch, PDG de l'INSERM. Gilles Bloch, cet hôpital, l'Hôtel Dieu a toujours, vous avez toujours l'INSERM, une unité au sein même des hôpitaux.
Absolument, l'Hôtel Dieu reste un lieu de mémoire très vivante hein, pour la médecine.
C'est pas un hôpital comme
c'est
les autres.
C'est un lieu qui a énormément de charme quand on y rentre. Moi, j'y suis allé plusieurs fois depuis mon arrivée à l'INSERM et en particulier pour rendre visite à une de nos très belles unités de recherche.
Mais finalement, l'INSERM, vous êtes dans les coulisses de tout ce qui fait notre quotidien, finalement. Vous avez les bonnes idées parce que vous faites des grandes recherches importantes et vous vous associez à des industriels et là, ça voit le jour.
Ah ben,
si on résume un peu comme ça.
Je pense que les deux débouchés essentiels de la recherche pour la santé, c'est le système de santé, comment on prend en charge les gens avant qu'ils soient malades et après.
Dans la prévention
et puis les partenariats
dans le
industriels.
Vous restez avec nous, Gilles Bloch, PDG de l'INSERM. Tiens, vous allez accompagner, allez, pourquoi pas, coacher un entrepreneur qui se lance lui aussi dans un traitement à visée thérapeutique. Vous êtes prêts? On continue.
Avec plaisir.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elles ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant. C'est un expert aussi. Et aujourd'hui, dans cette émission consacrée à la recherche, nous avons la joie d'être avec vous, Gilles Bloch. Vous êtes le PDG de l'INSERM. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, de la Chambre de commerce et d'industrie. Et aujourd'hui, un projet qui a été lancé il y a un peu plus d'un an. Bonjour Mohamed Abou Ali.
Bonjour.
Bienvenue dans la France Bouge. Vous avez 27 ans. Vous êtes le fondateur de Polygon Therapeutics qui vise à traiter les conséquences à long terme de l'infarctus. Hein, c'est un petit peu ça.
Exactement.
Hein, j'essaie de bien le résumer. Vous êtes docteur en pharmacie. Vous avez complété votre parcours à l'ESSEC. Vous avez intégré l'industrie pharmaceutique. Et le reste, vous allez nous le raconter. C'est parti pour le pitch de Polygon Therapeutics. Vous avez une minute.
Très bien. Alors, je vais commencer par essayer de vous surprendre avec un constat qui est assez paradoxal. Alors que les pathologies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde, on constate que le nombre de nouveaux traitements arrivant sur ce marché n'a cessé de diminuer durant les deux dernières décennies. Polygon s'est donc donné pour mission d'adresser ce constat en développant de nouveaux médicaments innovants pour améliorer la prise en charge et la qualité de vie des patients atteints de pathologies cardiovasculaires. Nous développons donc dans un premier traitement d'urgence en soins hospitaliers, un traitement qui permettra d'améliorer le pronostic à moyen et long terme des victimes de crises cardiaques en préservant l'état de leur cœur. Polygon, c'est non seulement l'application industrielle concrète de travaux de recherche français issus de l'INSERM, mais aussi l'ambition de devenir un futur leader du secteur en se présentant comme une plateforme de valorisation de la recherche en cardiologie. Et puis enfin, Polygon, c'est avant tout une équipe qui casse les codes du secteur avec des profils jeunes au parcours pluridisciplinaire et complémentaire.
Merci à vous, Mohamed Abou Ali, pour votre pitch de Polygon Therapeutics. Je me tourne vers Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses de Polygon Therapeutics, selon vous ?
Bonjour Mohamed. Alors déjà, bravo pour l'équipe que vous avez constituée. Vous rassemblez les ingrédients du succès, des chercheurs qui connaissent les exigences du business et une spécialiste de la gestion, un conseil scientifique, des partenaires financiers, bref, au-delà de la solution médicale, l'équipe est en place et l'équipe, c'est la seule ressource certaine dans un projet entrepreneurial. C'est sur ça que les investisseurs misent, donc bravo et gardez ce cap. Et merci pour notre futur, puisque vous avez fait une découverte majeure, vous avez découvert ce qui abîme réellement le cœur au moment d'un infarctus et vous réussissez à stopper la détérioration du cœur malgré l'infarctus. Vous êtes donc une médecine préventive qui va faire économiser des milliards à la collectivité. Alors, vu que je dois réagir à un concept qui ne sera une réalité que dans quelques années, c'est quand même pas simple, mais on va tenter un truc. Alors, on sent bien que l'histoire de cette entreprise, c'est une histoire d'hommes avec un grand H, puisqu'il y a des femmes également, une histoire de valeurs, une histoire de rêve. Vous êtes dans la lignée des grands entrepreneurs qui ont voulu changer le monde et le quotidien des hommes. Vous êtes aussi dans une course contre la montre parce que l'entreprise a besoin de commercialiser le plus vite possible. Et en même temps, vous avez le temps de la recherche médicale, de ses protocoles et de ses obligations. Donc le rôle de l'équipe fondatrice maintenant va être celui d'une équipe d'ambassadeurs et de leaders qui vont rassurer, motiver, expliquer et décrypter, fédérer pour préparer la phase de commercialisation. Rassurer les équipes sur le financement de leur travail et rassurer les financeurs sur l'opérationnalité de votre recherche. Motiver les équipes et les financeurs pour qu'ils continuent leur course de fonds ensemble. Expliquer et décrypter auprès de chacun des 230 000 médecins de France et des 74 000 pharmaciens qui doivent être informés de ce que vous préparez pour que, quand la commercialisation débutera, ils soient déjà convaincus. Expliquer et décrypter aussi auprès des autorités sanitaires pour que la phase d'autorisation de mise sur le marché soit la plus courte possible. Fédérer des industriels, bien sûr, des financeurs français si possible, mais aussi le grand public pour qu'il y ait une douce pression des patients et de leurs proches sur les autorités sanitaires et les médecins. Bref, pendant que votre équipe travaille sur le produit, l'équipe fondatrice prépare l'avenir et plante toutes les graines pour déclencher et gérer le succès commercial de demain. En France, comme dirait l'autre, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et celle-ci, on aimerait bien qu'elle devienne la 24e licorne française. Cocorico.
Oui, la 27e même, hein, parce que je crois qu'on en a, on a 26 licornes. Merci Nathalie Carré. Alors Mohamed Abou Ali, vous en pensez quoi de tout ce que vous dit Nathalie Carré ?
J'en pense que ça décrit exactement notre réalité et aussi la réalité de l'industrie. Et notamment, le gros challenge qu'on aura, c'est de maintenir le cap, de ne pas perdre le temps.
Vous travaillez un peu avec l'Inserm ?
Énormément.
Ah,
énormément. On est issu de l'Inserm. On est
vous êtes
d'un
vous aussi issu de l'Inserm. Donc là aussi, Gilles Bloch, c'est un petit embryon de l'Inserm, là.
Ah bah, c'est des travaux issus d'un laboratoire, un très grand laboratoire, juste à proximité de vos locaux.
Du 15e arrondissement.
L'hôpital Georges Pompidou, donc un labo qui s'appelle Le Parc. Et je dirais que c'est l'archétype de la façon dont ces belles startups se créent. C'est-à-dire qu'on a des chercheurs avec des idées, des découvertes, et on crée, sur la base de ces découvertes, une équipe pour manager la création de valeur.
Voilà. Donc là, ce qui bloque, si on comprend bien, ce dont vous avez besoin, Mohamed, ce sont des fonds.
Exactement.
Hein, sans fonds, vous n'allez pas pouvoir développer votre produit.
Il faut lever des fonds.
Là où vous intervenez, c'est pour préserver l'état du cœur après la phase aiguë de l'infarctus. Et je pense que c'est là où il faut que... Enfin, moi, je ne suis pas investisseuse, mais c'est là où il faut qu'on comprenne votre valeur ajoutée. Parce qu'il y en a des traitements pour prévenir l'infarctus, pour... Mais vous, en fait, c'est pour que le cœur ne soit pas endommagé.
Exactement. C'est une sorte de prévention post-épisode d'infarctus. Et c'est
vous
peut-être
prévenez
la complexité.
Pas l'infarctus. Ouais. Vous, c'est... on prévient le cœur après l'infarctus.
En fait, on traite au moment où le patient est pris en charge à l'hôpital. Mais ce qu'on va chercher à faire, bah, c'est essayer d'améliorer l'état du cœur sur le très long terme. Donc on traite très tôt, de manière transitoire en une fois, pour des effets qui vont être sur le long terme.
Gilles Bloch, vous en pensez quoi ? Vous, évidemment, vous l'avez validé ce projet.
Alors, sur le plan scientifique, c'est une aventure passionnante. Hein. C'est comment, en manipulant la réponse immunitaire, donc la façon dont notre corps se défend contre des événements.
On l'a appris là pendant la crise sanitaire. Tout est une histoire de réponse immunitaire.
Ah ben, disons que
moi je parle en tant que je suis pas médecin, mais c'est
sur
ça.
La Covid, on a vu comment la réponse immunitaire néfaste pouvait être mortelle et comment on a
et parfois pas du tout.
Et dans l'infarctus,
c'est pareil.
On a des mécanismes un peu analogues. Là, on va essayer aussi de minimiser la réponse immunitaire dans la phase aiguë, puis dans le remodelage cardiaque. Et donc, c'est une approche à la fois originale et qui répond à un besoin, puisque Mohamed le disait, on a énormément d'investissements industriels sur le développement thérapeutique dans le domaine du cancer, par exemple. C'est pratiquement deux tiers des investissements qui sont faits dans le domaine des maladies cardiovasculaires.
Oui, il y en a de moins en moins, alors que voilà, c'est mortel.
Et je pense
mortel.
Que c'est bien qu'on ait des entrepreneurs qui prennent ce sujet à bras le corps, parce que ça
vous avez besoin de combien, là?
Alors, sur le prochain tour d'investissement, on lèvera à minima 7 millions d'euros, qui nous permettra d'être prêts pour la phase clinique.
On vous souhaite bonne chance, Mohamed Abou Ali, fondateur de Polygon Therapeutics. Merci à vous d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré.
Et l'adresse, bien sûr, c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et promis juré, Charlotte Barécan et moi, on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Vous restez avec nous, demain je change de vie.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et c'est déjà la dernière partie de votre émission, La France bouge. Nous sommes toujours avec vous, Gilles Bloch, vous êtes le PDG de l'INSERM. Et en France, nous, on aime mettre en avant des parcours de vie. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de changer de métier? Bonjour Samuel Deluze.
Bonjour.
Vous avez 38 ans, vous êtes le directeur général adjoint d'un CHU, le CHU de Caen. Mais avant, vous étiez dans le cinéma, parce que vous venez d'une famille qui travaille dans le cinéma. C'est-à-dire que d'habitude, on trouve des personnes qui sont avocates ou médecins et qui ont envie de devenir artiste peintre. Vous, c'est l'inverse.
Tout à fait. Donc, j'ai effectivement commencé ma vie comme assistant caméra d'abord, puis comme assistant réalisateur également. Et puis, j'ai réalisé moi-même quelques courts-métrages avant de faire un grand virage à 180 degrés pour m'orienter vers un travail, effectivement, à l'hôpital.
Vous étiez intégré dans ce milieu?
Absolument. J'ai eu une enfance assez formidable. J'ai eu la chance de voir jouer Gérard Depardieu, Michel Galabru, Marielle, Noiret, Ben Kingsley, plein de gens très connus, donc une enfance qui vous met des étoiles dans les yeux.
Vous parlez de l'enfance depuis le début, mais finalement ça ne vous convenait pas. Vous aviez envie d'un boulot stable, avec des horaires, aller tous les jours sur votre lieu de travail. Vous en aviez assez de travailler 3 jours par mois et ensuite plus rien.
Alors ce qui est difficile effectivement dans les métiers du cinéma, c'est ce rythme d'intermittent, on parle des intermittents du spectacle, qui fait qu'effectivement, on travaille par à-coup et que finalement, quand un tournage s'arrête, on ne sait pas si on est en vacances, si on est en recherche d'emploi. Il y a une confusion qui est assez compliquée, surtout quand on est très jeune, parce qu'il faut essayer de prendre le rythme ou pas. Et puis, je crois que peut-être plus spécifique, j'ai eu besoin d'écrire aussi ma propre page.
Et vous démarquez peut-être de votre milieu familial.
C'est ça.
Faire autre chose. Donc, pas possible de devenir médecin, mais vous êtes orienté vers le domaine de la santé, puisque vous avez repris vos études, des études dites utiles, c'est ce que vous avez dit à nos équipes, et vous êtes allé dans tout ce qui était finances publiques.
Alors, effectivement, pour s'orienter vers des métiers comme cela, il faut quand même un bagage universitaire assez conséquent, classique. Donc, j'ai fait du droit, de l'économie, des finances publiques. J'ai fait un peu plus tard aussi de la santé publique pour avoir des connaissances sur les métiers dans lesquels je travaillais. Voilà, donc des études somme toute classiques en effet et qui permettaient de déboucher sur ce type de métier, avec ou sans passer des concours d'ailleurs. Et c'est finalement ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai pas eu à passer de concours. On est aujourd'hui dans une époque où finalement ce critère-là est un peu moins attendu.
Et on voit que tout est possible. Aujourd'hui, vous êtes le directeur général adjoint de ce CHU avec plusieurs milliers d'employés du corps médical, corps de soignants, agents administratifs. Vous regrettez pas du tout d'avoir changé de secteur, j'imagine?
Non, pas du tout.
Non, c'est un
pas du tout, parce
pourtant.
Que c'est une aventure passionnante. C'est effectivement tous les jours des nouvelles choses à voir, des nouveaux projets à conduire, et puis des rencontres aussi avec des médecins, des soignants, des directeurs d'hôpitaux, effectivement, avec lesquels on essaye de d'innover et de trouver
d'avancer.
Des projets qui nous...
Comme voilà. Quoi, tout est possible. Merci à vous, Samuel Deluz. Hein. Vous étiez dans le cinéma. Aujourd'hui, vous êtes directeur général adjoint du CHU de Caen. Gilles Bloch, vous êtes le PDG de l'INSERM. Là, c'était un changement de vie. Si on pense à nos chercheurs, vous avez plus de 15 000 chercheurs à l'INSERM. Est-ce qu'on en a assez ou est-ce qu'on continue de partir un peu à l'étranger?
Alors, je dirais que le vivier de compétences est là. C'est-à-dire que la France sait former des chercheurs, des enseignants-chercheurs à un très haut niveau. Dans leur parcours de formation, il y a souvent des séjours à l'étranger. La plupart en reviennent pour tenter leur chance en France. On a des flux de départ aussi, parce qu'il faut être honnête, hein, y a des pays qui offrent des niveaux de rémunération que nous n'avons
combien
pas.
Combien gagne le chercheur aujourd'hui en France?
Alors ça dépend à quel niveau de la carrière, mais ça peut être entre 2 500 euros et puis 5 500 en fin de carrière. Donc on est sur des rémunérations, je dirais... Dans des moyennes tout à fait honorables.
Honorables, mais compte tenu
quand on va en Suisse, quand on va au Royaume-Uni, il y a, je dirais, un système beaucoup plus différencié. Avec,
donc là, il faudrait aussi changer le système un petit peu.
La France est en train de rattraper. Je crois que la loi de programmation de la recherche a redonné aux établissements des moyens pour augmenter les rémunérations avec des systèmes de primes. Ça se fait étape par étape.
Donc c'est encourageant.
C'est encourageant. Je crois qu'il y a vraiment un rebond qui est en cours. Il y a une prise de conscience que la recherche en santé est extrêmement compétitive avec des pays qui se sont positionnés de façon très forte en Europe et ailleurs aux États-Unis. Voilà, donc une prise de conscience et un début d'évolution très, très positif.
Merci Gilles Bloch, c'est déjà la fin de votre émission. Vous êtes le PDG de l'INSERM. On en sait beaucoup plus grâce à vous sur nos chercheurs, sur la gestion de la crise et puis sur les traitements de demain. Nathalie Carré, justement, nous, on se retrouve demain. On va parler de notre pouvoir d'achat avec Michel-Édouard Leclerc. Il sera lui aussi autour de la table de la France Bouge. À demain, dans un instant, le Flash, suivi de Christophe Ondelatte.